de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir tout le monde, comment allez-vous? Ravi de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en française diffusée depuis Jakarta. Je m'appelle Tiwi et je vais vous accompagner pendant 60 minutes pour présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, la mise au point de la semaine, l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Bon, chers auditeurs, comme d'habitude, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde.
RRI, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre « La reine Elisabeth commémore le 75e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale. » L'Inde est prête à produire en masse des vaccins COVID-19. On a ouvert un arrêt de bus anti-corona en Corée du Sud. Le 75e anniversaire de la République d'Indonésie a été le premier pas vers la renaissance de l'unité. La communauté de plongée de Sika étant un drapeau rouge et blanc sur le fond marin. Bon, chers auditeurs, voici le journal en complet. La reine britannique Elizabeth a rendu hommage au sacrifice des soldats à l'occasion du 75e anniversaire du Fiji Day ou Victory over Japan Day qui a marqué la victoire sur le Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale. La reine rappelle les souffrances pendant la guerre et le moment de joie lorsque la guerre a pris fin. Le Japon a déclaré sa reddition le 15 août 1945 après que les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. L'empereur du Japon a exprimé son profond regret pour le temps de guerre. Elisabeth, de 94 ans, dit qu'elle n'oubliera jamais la joie et le soulagement qu'elle a ressenti à la fin de la guerre. Elisabeth a transmis ses sentiments par un message. Elle se souvient de la guerre comme d'une chose terrible. Elisabeth, qui était adolescente lorsque la guerre, a servi dans le service régional de soutien aux femmes. Elle était au palais de Buckingham lorsque le palais a été bombardé en septembre 1940. On présentera le montage sur des grands écrans à divers endroits en Angleterre. Son fils, l'héritier du trône, le prince Charles, dirigera en silence de 2 minutes au National Memorial Arboretum au centre de l'Angleterre, tandis que son petit-fils, le prince William, apparaîtra dans une émission spéciale de la BBC. Le premier ministre indien Narendra Modi a déclaré que son pays était prêt à produire en masse le vaccin COVID-19. On l'aurait fait si les scientifiques avaient donné le feu vert. Narendra Modi a déclaré cela en assistant au 73e anniversaire de l'indépendance de l'Inde au Fort Rouge à New Delhi samedi dernier. Il a expliqué qu'en dehors de l'économie, l'indépendance en matière de santé était également une priorité pour son gouvernement. À cette occasion, Modi a également lancé la National Digital Health Mission. L'objectif est d'enregistrer tous les tests médicaux, maladies, médicaments
et autres détails de chaque citoyen indien dans une seule identité sanitaire. Actuellement, l'Inde est en troisième position en tant que pays avec le plus de cas de COVID-19 dans le monde. Il compte plus de 2,5 millions de cas et le nombre de morts dépasse 49 000. La Corée du Sud a conclu un arrêt de bus intelligent. On a conclu l'arrêt de bus pour protéger les passagers du soleil brûlant, des fortes pluies et du virus corona. La salle transparente Smart Shelter à Séoul est équipée de la climatisation et d'un stérilisateur ultraviolet pour nettoyer et refroidir l'air, des caméras de surveillance et d'écrans numériques pour avertir les passagers de l'arrivée du bus. On a également équipé l'arrêt du bus d'un désinfectant pour les mains et d'un espace pour recharger un ordinateur portable ou un téléphone portable ainsi qu'une connexion Wi-Fi gratuite. Selon Park Sung-yeon, un étudiant de 25 ans, cité par Reuters samedi, il était mal à l'aise car on devait vérifier sa température avant d'entrer, mais cela n'a pas pris longtemps. Des caméras thermiques sur les portes surveillent la température corporelle du passager. Un chargé de l'arrêt de bus dans la région de Seongdong, Kim Hwan-gyun, a déclaré « Seul ce dont la température corporelle est inférieure à 37,5 degrés Celsius peuvent entrer. On a déjà installé des arrêts de bus dans le district de Seongdong, à Séoul de l'Est. » Le président du conseil régional ou des PRD de la région de Bangka, province des îles Bangka Belitung, Iskandar, a estimé que le 75e anniversaire de l'Indonésie au milieu de la pandémie de COVID-19 est la première étape pour susciter l'esprit d'unité du peuple indonésien. Selon Iskandar, à Sungai Liat samedi, ce n'est pas qu'avec la force de l'unité que l'Indonésie se remettra rapidement de tous les secteurs, en particulier en restaurant les conditions économiques des personnes touchées par la propagation du COVID-19. Iskandar est d'accord avec la politique du président de la République d'Indonésie, Joko Widodo, qui entreprend des améliorations fondamentales, réalise des transformations majeures, mène des stratégies majeures, tant dans le domaine de l'économie, du droit, du gouvernement, du social, de la culture, y compris de la santé et de l'éducation. Il a bon espoir que les conditions économiques se relanceront, même si cela doit être progressif, en particulier dans le secteur des micro-entreprises qui est reparti dans toutes les régions. Son parti continue de soutenir la politique de relance économique communautaire par le gouvernement régional et central. Une communauté de plongeurs de Maumere, la région de Sika, Nusa Tenggara de l'Est, Maumere Diver Community, ou abrégé en MDC, déploiera un drapeau rouge et blanc sur le fond marin pour célébrer le 75e anniversaire de l'indépendance indonésienne. Le directeur général Ricardo Franciscus Lado a déclaré samedi à Antara à Kupang que l'emplacement du déploiement du drapeau rouge et blanc était juste sur la faille du tsunami de 1992 près de l'île de Babi dans la région de Sika. Il a déclaré que la taille du drapeau étendu sur le fond marin se composait d'un drapeau géant mesurant 10 mètres comme drapeau principal et de plusieurs drapeaux mesurant 3 mètres. Le nombre de plongeurs impliqués était de 18 personnes. Ricardus a déclaré que sur les 18 personnes, 8 étaient seulement à la plongée en apnée et 10 plongeurs étaient en charge de la plongée sur le fond marin pour l'étaler. Il a également révélé que plus tard, quelqu'un serait en charge d'enregistrer l'activité de lever le drapeau sur le fond marin, de sorte que le 17 août, on la diffusera au grand public. Voilà le journal d'aujourd'hui.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Bonsoir à tous. Voici la mise au point de la semaine dont le titre est « Le président espère que l'essai clinique du vaccin COVID-19 sera achevé dans 6 mois ». Le président Joko Widodo a assisté à la mise en œuvre de la troisième phase de l'essai clinique COVID-19 à la Faculté de médecine de l'Université Pajajaran Bandung Java de l'Ouest mardi le 11 août. Au total, 1620 volontaires ont participé à cet essai clinique. Le vaccin COVID-19 qui a été testé était le résultat du développement de la société pharmaceutique d'État, Biopharma, avec une société chinoise, Sinovac. Après la phase de recherche en Chine, on a ensuite apporté le vaccin en Indonésie le mois dernier pour des essais cliniques à Bandung. Au même jour, le président a également procédé à une revue de la production de vaccins au laboratoire Biopharma Bandung, province de Java de l'Ouest. Après avoir effectué la revue, le président espère qu'on peut terminer cet essai clinique dans les 6 prochains mois. Si on peut le produire en janvier, on peut immédiatement donner des vaccins à tous les habitants d'Indonésie. Le président a déclaré que Biopharma en août peut produire environ 100 millions de vaccins. Mais plus tard, à la fin de 2020, en décembre, il produira à 250 millions de vaccins. En outre, a déclaré le président, le gouvernement a développé pendant 3 mois son propre vaccin à partir d'isolats développés de COVID-19 circulant en Indonésie. Le président espère que le vaccin appelé « vaccin merah putih » ou « vaccin rouge et blanc » sera également achevé à la mi-2021. Ce vaccin a été développé par l'Institut Eijkman ainsi que l'Agence pour l'évaluation et l'application de la technologie ou en Indonésie BPPT, l'Institut indonésien des sciences en Indonésie LIPI, l'Agence de contrôle des aliments et des médicaments en Indonésie BPOM, le ministère de la recherche et de la technologie et plusieurs universités. Le président a ajouté que le gouvernement indonésien était également ouvert à collaborer, par exemple avec Sinovac en Chine, G42 aux Émirats Arabes Unis et en Corée du Sud. Selon le président, en s'ouvrant, l'Indonésie pourrait vacciner rapidement toute la population. Le secrétaire du cabinet Pramono Anung, le ministre des Entreprises publiques Erick Thohir, et le ministre de la Santé, Terawan Agus Putranto, étaient également présents pour accompagner le président lors de cette visite. C'était la mise au point de la semaine.
Commémoration du 75e anniversaire de l'indépendance de la République indonésienne en 2020, sur le thème « L'Indonésie va de l'avant ». La longévité pour la République indonésienne.
Voici l'histoire d'aujourd'hui, le 16 août. On commence par le 16 août 1945, l'incident de Rengas Dengklok. Les jeunes leaders ont enlevé Soekarno et Mohammad Hatta à Rengas Dengklok, Karawang, Java de l'Ouest, le 16 août 1945. L'enlèvement visait à exhorter Soekarno et Mohammad Hatta à proclamer immédiatement l'indépendance de l'Indonésie. On se souvient de l'événement en tant qu'incident de Rengas Dengklok. Le lendemain, le 17 août 1945, on annonçait une proclamation dans le texte de la proclamation d'indépendance indonésienne tapée par Sayuti Melik. La suite, le 16 août 1916, l'indépendance de Chypre. Chypre a déclaré son indépendance des Britanniques qui l'a dirigée depuis 1878. Chypre a accédé à l'indépendance après la signature de l'accord de Zurich et de Londres par le gouvernement britannique, turc, grec et chypriote à Londres en Angleterre en 1959 qui a établi la constitution de Chypre. Le 16 août 1976, le tremblement de terre qui a provoqué le tsunami aux Philippines. Aux premières heures du 16 août 1976, la petite île de Mindanao aux Philippines a été frappée par un tremblement de terre de 7,9 sur l'échelle de Richter. Le tremblement de terre a provoqué un tsunami massif qui a frappé à plus de 433 milles du rivage. Les habitants n'étaient pas conscients des dangers et n'ont pas le temps de s'échapper vers les autres lieux. Des milliers de victimes ont été aspirées dans la mer. Au total, 5000 personnes sont mortes, plus de 2200 autres sont disparues, 9500 ont été blessées et plus de 90 000 personnes sont sans abri. Les villes et les provinces de la région du nord de la mer des Philippines ont été dévastées par le tsunami, des vagues atteignant 15 mètres. On considère que c'est l'une des pires catastrophes que le pays ait reçues. Voilà l'histoire d'aujourd'hui.
première chanson indonésienne, j'espère que vous l'aimez. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Chers auditeurs, voici donc mon Indonésie.
Mon Indonésie d'aujourd'hui est intitulée La préparation de l'Indonésie pour les Jeux Olympiques de 2032. La compétition pour accueillir les Jeux Olympiques de 2032 est devenue plus serrée après que le Qatar se soit porté volontaire pour les accueillir. Le Qatar a confirmé qu'il participerait à la candidature pour accueillir le plus grand multi-event en 4 ans après avoir officiellement soumis au Comité international olympique, ou CIO, lundi plus tôt cette semaine. En réponse à la nomination du Qatar, le président du Comité olympique indonésien ou COI, Raja Sabta Oktohari, a demandé à l'Indonésie de se préparer immédiatement et sérieusement à accueillir les Jeux olympiques de 2032. Comme cité par Detik Sport, selon Raja Sabta Oktohari, on a vraiment besoin d'un soutien important et sérieux du gouvernement. Outre le soutien du gouvernement central, COI a également collaboré avec le gouvernement provincial de DKI Jakarta pour les prochains Jeux olympiques de 2032. Raja Sabta Oktohari a déclaré qu'on avait tenu une réunion avec les parties prenantes à Jakarta, en particulier concernant l'amélioration des installations afin d'optimiser les avantages du site ainsi que les efforts visant à maximiser les normes du site. En outre, le projet de déplacer la capitale au Kalimantan de l'Est, en plus du développement des infrastructures de développement urbain, le gouvernement a également conclu la construction d'installations sportives de niveau international. Selon Oktohari, avec l'augmentation de la qualité du site, les installations de matchs pourront être utilisées lors de matchs internationaux et amélioreront l'image de l'Indonésie. Il fera également de l'installation de compétition en centre d'entraînement pour les athlètes nationaux, régionaux et même internationaux. Pendant ce temps, la sous-gouverneure de DKI Jakarta, Riza Patria, comprend le concept du matériel promotionnel que COI voulait. Il est également engagé dans le même temps à résoudre le problème sur l'atout de l'ancien site des Jeux asiatiques de 2018 qui ne sont pas encore terminés. En se présentant aux Jeux olympiques, l'Indonésie doit être sérieuse et compacte dans tous les domaines et secteurs, en particulier face aux défis, en particulier au milieu de la pandémie de COVID-19. Le premier test a été l'annulation de la visite du président indonésien et du président de COI au siège du Comité international olympique à Lausanne, en Suisse, en avril dernier en raison de la pandémie. Pour cela, a déclaré Raja Oktohari, il est nécessaire d'égaliser la perception avec tous les Indonésiens que l'Indonésie est capable de devenir le premier pays d'Asie du Sud-Est à organiser les Jeux olympiques. Il a également déclaré que la tenue réussie des Jeux asiatiques et des Jeux para-asiatiques de 2018, elle a prévu que l'Indonésie est capable d'être un bon hôte plus tard. Cela changera le visage et l'image de la nation indonésienne dans l'arène sportive mondiale. Outre l'Indonésie, le Qatar, 4 autres pays se sont désignés pour accueillir les Jeux olympiques de 2032, à savoir l'Australie, l'Inde, la Corée-Unie, la Chine et l'Allemagne.
Kau pernah sendiri, pencipta pertemukan kita lagi. Amarah ada, laparam sudah, sukacita ada dalam kita. Berlayar menuju tujuan yang telah pasti, berlabuh untuk berdua kita aduh.
Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde. En plus de la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz, vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voinews.id. Bon, chers auditeurs, maintenant nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale du peuple indonésien.
Cette fois-ci, nous vous invitons à la province de Bengkulu pour goûter pendap, une cuisine traditionnelle de Bengkulu. Pendap est l'un des aliments typiques de la province de Bengkulu. Pendap est également appelé pais ou pepes. Pendap existe depuis leurs ancêtres, de sorte que pendap était le thème de l'une des chansons publiées dans l'album régional de Bengkulu dans les années 1990. Cette chanson raconte comment cuisiner pendap Bengkulu et comment les gens de Bengkulu dans le temps ancien l'ont apprécié. Pendap est également le plat préféré du premier président indonésien, Insinyur Soekarno, en exil dans la ville de Bengkulu de 1938 à 1942. Chers auditeurs, Pendap Bengkulu est fabriqué à partir de poissons avec diverses épices telles que l'ail, l'échalote, le galanga, les piments moulus, la coriandre, le poivre, le sel et d'autres herbes. On l'a écrasé et l'a mélangé uniformément avec de la genoise de coco râpée. Ensuite, on a mis un morceau de poisson qui a été fermenté et enveloppé dans quelques feuilles de taro. Les poissons utilisés sont des vivano ou d'autres poissons de mer. Après l'avoir cuit à la vapeur avec des feuilles de taro, on l'a ensuite enveloppé dans des feuilles de bananier pour en préserver la saveur. Ce n'est qu'alors qu'il l'a attaché avec des feuilles de pandan. Chers auditeurs, les gens de Bengkulu cuisinent généralement ce pendap en le faisant bouillir, mais il y a aussi ceux qui le font cuire à la vapeur. Ce qui est clair, la cuisson doit durer 8 heures et un minimum de 4 heures, car si elle dure moins de 4 heures, le goût sera désagréable et se gâtera facilement ou aura un goût aigre. Les feuilles de taro provoqueront des démangeaisons sur la langue. Le processus de cuisson de pendap se fait sur un grand poêle et utilise toujours du bois de chauffage afin qu'il ait le même goût que l'héritage de leurs ancêtres. C'est ce qui fait que les épices s'infiltrent dans le poisson et aussi dans les feuilles de taro qui enveloppent ce poisson. Chers auditeurs, le culinaire pendap, dont le prix commence à partir de 10 000 roupias à 15 000 roupias, serait très délicieux s'il est servi avec du riz chaud. En plus d'être un plat incontournable pour les touristes qui viennent à Bengkulu, ce pendap peut aussi être un souvenir, car ce culinaire peut durer plusieurs jours.
Terlupa. bisa kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Malu, aku malu pada semut merah yang berbaris di dinding. Menatapku curiga, seakan penuh tanya, sedang apa di sini? Menanti pacar jawabku. Takkan terlupa kisah kasih di sekolah dengan si dia. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Tiada masa paling indah, masa-masa di sekolah. Tiada kisah paling indah, kisah kasih di sekolah. Masa-masa paling indah. Kasih di sekolah,
Voice of Indonesia de l'Indonésie au monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur la fréquence de 3325 kHz et 4750 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site web de www.voynews.id. Pour la rubrique suivante, voici l'Indonésie en couleur, la rubrique qui vous fournit des informations intéressantes en Indonésie.
Voici l'Indonésie en couleur et cette édition parle du tour de Borobudur 2020. Cette année, on continue à organiser l'une des activités de tourisme sportif à Java Central qui est devenue un agenda annuel, à savoir le tour de Borobudur, même s'il est toujours en situation de pandémie de COVID-19. On espère que l'activité initiée par la Semarang Bicycle Association, ou abrégée en Samba, ouvrira la voie au tourisme à Java Central à l'ère de la nouvelle normalité. Le tour de Borobudur 2020 a pour thème « Fight COVID-19 ». Cette activité se déroule par étapes avec des protocoles sanitaires stricts à partir du samedi 15 août 2020. La cérémonie d'ouverture de cet événement a également réuni des dizaines de médecins de l'Association indonésienne de médecins. Ces médecins parcourront 100 km jusqu'au temple de Borobudur. Thank you. Dans un communiqué officiel reçu par semarinpost.com, mercredi 12 août 2020, la coordinatrice du tour de Borobudur 2020, Hendra Darmanto, a déclaré qu'après avoir terminé le premier jour avec le médecin, on procéderait à une évaluation, notamment en ce qui concerne les protocoles de santé. Selon lui, cette activité était divisée en 22 séances. Chaque activité est suivie par un maximum de 50 participants. Dans cet événement, il existe également d'autres activités de soutien, à savoir le cyclisme thématique de diverses professions, y compris des membres de l'armée et la police nationale. Comme l'année précédente, le Tour de Borobudur propose à nouveau un nouvel itinéraire à travers la beauté naturelle de Jaffa Central. On espère que cette activité pourra traiter le désir d'exploration naturelle à Jaffa Central, bien sûr en prêtant attention aux protocoles de santé. C'est tout l'Indonésie en couleur.
Chers auditrices et auditeurs, si vous ne vous sentez pas en forme ou bien vous êtes malade, portez le masque pour freiner la propagation du coronavirus. Soutenons le mouvement d'utilisation des masques pour ce qui est malade. Et n'oubliez pas de vous laver régulièrement les mains. Espérons que ce problème de coronavirus dans le monde entier sera bientôt terminé.
Chanson que vous écoutez et nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute!
Bonsoir à tous! Merci de rester fidèles à Voice of Indonesia. L'équipe de l'émission française de Voice of Indonesia vous remercie d'avoir envoyé les courriers, les cartes postales, le rapport d'écoute et les messages. Dans ce programme, nous allons saluer nos auditeurs et comme d'habitude, nous allons également présenter une chanson indonésienne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une chanson de Mita Lestari intitulée Kala. Cette chanson raconte du bonheur de Mita d'avoir Kala, son premier fils, dans sa vie. Elle veut toujours offrir le meilleur à son enfant. Dans cette chanson, il y a aussi la prière de Mita pour que son enfant puisse toujours devenir une personne forte et heureuse. Bon, chers auditeurs, avant d'écouter la chanson, je vais saluer Merdin Mourad à Nahmouchine Ouari de BP 154-17-1900 Algérie et aussi l'assessor maire de BP 530 Bureau de Poste Émir à Eka de 9008 Mascara Algérie et à Abdelkader Halil de BP 69 Ouargla Algérie. Merci d'écouter Voice of Indonesia et restez toujours en contact avec nous. Et aussi bonjour aux États-Unis, Idris Budina et Madame Lupna de 1130 Springdale Drive, Pittsburgh. Et meilleures salutations à nos auditeurs de France, Maurice Mercier, René Durand, Bernard Wattelet de Clermont, Ferran, Maurice Mercier, Jean-Marie Monplot et Christian Gibaudot. Comment ça va, chers amis? J'espère que vous allez bien. Et à son tour, Joël Hint, José Socorro Soero Marano, Avenida Alcide Rocha, 469, Molino, Queira, Brésil, de 62550000. Comment allez-vous? Merci à tous celles et à tous ceux qui nous ont écoutés et nous ont écrit ou envoyé des rapports d'écoute. Merci de continuer à suivre nos programmes. Toute l'équipe francophone de la Voix de l'Indonésie vous dit un grand merci à tous. Écoutons une chanson intitulée Kala, chantée par Mita Lestari. Merci à tous et à la semaine prochaine.
Jangan pernah berhenti doa cinta.
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en française pour ce soir. Merci de votre fidélité. Rendez-vous demain dans la même heure et la même fréquence. Au revoir.